agente pénitentiaire. Ça interroge évidemment les liens de proximité entre les détenus et les agents. Vont-ils trop loin? Ce sera la deuxième question de ce soir. Et puis nous parlerons d'un rassemblement étudiant demain. Mais tout ça, ce sera juste après les infos, 18h.
Promo canon chez Di. Deuxième à moins 50% sur Nivea Visage et Corps. Et 2 plus 1 gratuit sur Makeup Academy, la nouvelle marque exclusive de maquillage à petit prix. Di, être bien, tout simplement.
Belle RTL, vibrez ensemble.
Beau début de soirée sur Belle RTL, il est 18h. Le journal vous est présenté par Peggy Simonneau. Bonsoir Peggy.
Bonsoir Thibault, bonsoir à tous.
Scène particulièrement choquante dans un bus à Anvers.
Un homme a été tué à coups de couteau. Il y a aussi 2 blessés, pas encore de mobile connu. Nous rejoignons Charlotte Simonard sur place à Anvers dès le début de ce journal. À l'hôpital de Montgodine, théâtre d'un incendie la nuit dernière, les consultations et les opérations reprendront quasi normalement demain. Dans ce journal aussi, le témoignage d'une Iranienne qui vit en Belgique, très inquiète pour sa mère et sa famille. Restée en Iran alors que de nouvelles explosions viennent de secouer Téhéran. Et puis nous irons à Péridaïsa à la découverte de l'éléphanto né ce week-end.
L'effroi à bord d'un bus de Lane à Anvers.
Un passager a été égorgé par un individu qui a été arrêté. Il y a aussi 2 blessés. Charlotte Simonard, vous êtes sur place à Anvers pour RTL Info. Charlotte, quelle est la situation autour de vous?
Eh bien, un périmètre de sécurité est toujours dressé ici où je me trouve, au centre d'Anvers, à l'aide de grands panneaux noirs tout autour de ce bus, théâtre donc de cet assassinat qui a eu lieu cet après-midi. Il y a encore ici plusieurs voitures de police ainsi qu'un camion des forces de l'ordre qui quadrille la zone. L'incident s'est déroulé vers 14h30 au niveau d'un arrêt de bus de Lane. Alors, selon des témoins, l'assaillant s'en est pris à sa victime au moment de monter dans le bus, une victime choisie de manière aléatoire. Il s'agirait d'un homme âgé. Pour l'heure, aucun lien n'est établi entre l'agresseur et sa victime, tuée donc, égorgée à l'aide d'un couteau. 2 autres personnes ont également été blessées. Elles tentaient d'intervenir, parmi elles le chauffeur du bus qui est ce soir en état de choc. L'assaillant est finalement descendu du bus, les mains en l'air. Il s'est rendu à la police qui est arrivée rapidement sur les lieux dans une vidéo tournée par un témoin. On le voit placardé au sol par 2 policiers avant d'être menotté. Alors, on ignore encore tout de son identité et de ses motivations. Le parquet d'Anvers ouvre une enquête pour assassinat.
Merci Charlotte. Charlotte Simonard depuis Anvers pour RTL Info. C'est une affaire déjà ancienne, l'affaire Hans van Temsch. Le 11 mai 2006 à Anvers, il avait tué par balle Luna, une petite fille de 2 ans, et la jeune femme qui s'occupait d'elle, Oulématou Nyangadou. Et il avait blessé gravement une femme de 47 ans. Hans van Temsch avait reconnu avoir sciemment visé des personnes d'origine étrangère. Le tribunal de l'application des peines de Gand a décidé de le remettre en liberté conditionnelle. Il sera immédiatement admis dans une section fermée d'une institution spécialisée. Le 11 octobre 2007, il avait été condamné à la réclusion à perpétuité. Le policier impliqué dans la mort de Fabian à Gandsoren fait appel de la prolongation de sa détention préventive. Il devra comparaître devant la chambre des mises en accusation dans un délai de 15 jours.
Vers un retour à la normale à l'hôpital de Montgodine à Ivoire.
Un incendie dans la zone des consultations la nuit dernière a perturbé le fonctionnement de l'hôpital toute la journée, pas forcément à cause du feu, rapidement maîtrisé, plutôt à cause de la rupture d'une canalisation sous l'effet de la chaleur et de l'eau qui a causé des dégâts. Demain, l'hôpital va retrouver un fonctionnement à peu près normal. Sandra Diunta, la directrice de l'hôpital de Montgodine, interrogée par Florent Vandenberg.
Une grande partie des consultations vont pouvoir reprendre, à l'exception de l'urologie et une partie de la dermatologie. Donc, je dirais, là, on revient quasiment à un retour à la normale. Tous nos patients ont été contactés, que ce soit par SMS, mais également par appel téléphonique pour les patients, en tout cas, qui devaient se rejoindre l'hôpital dès les premières heures pour une reprise de rendez-vous dans les prochains jours. Ça va surcharger le quotidien, effectivement, au niveau médical et des équipes soignantes, mais je pense que c'est des équipes qui ont l'habitude de faire preuve d'agilité dans ces cas-là.
Le secteur du commerce est allé manifester ce matin devant le SPF Emploi. Il dénonce des conditions de travail qui se dégradent. Parmi les revendications, l'harmonisation des commissions paritaires entre les différents magasins. L'objectif, c'est que les règles soient les mêmes partout. On devrait passer moins de temps dans les files d'attente au contrôle des passeports cet été à l'aéroport de Bruxelles National. Le ministre de l'Intérieur l'a indiqué cet après-midi lors de la présentation du plan été de la police aéroportuaire. Pour faire court, des renforts et du personnel supplémentaire devrait mettre un terme à ces désagréments.
Israël poursuit ses frappes en Iran.
Il y a d'abord eu un appel à la population iranienne à évacuer un quartier de Téhéran et puis de nouveaux raids en fin d'après-midi qui ont d'abord visé la radio-télévision d'État iranienne. De fortes explosions ont été entendues dans l'ouest de la capitale. L'armée israélienne a indiqué qu'ensuite elle ciblerait des infrastructures militaires. Selon les Israéliens, on le rappelle, l'objectif de cette opération, c'est d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles. C'est la première fois que les deux pays ennemis s'affrontent militairement avec une telle intensité. Écoutez le témoignage d'une Iranienne établie en Belgique. Elle a toujours de la famille en Iran et notamment sa maman. Et elle est très inquiète.
Hier, quand j'étais au téléphone avec, elle a dit, tu sais, je suis bien habillée. Je dis, pourquoi ? Elle dit, mais si je vais mourir, j'aimerais bien que voilà... J'ai une copine qui est partie pour 90 km. Elle a resté pendant 8h30 dans les embouteillages. En plus, il y avait pas mal de gens que leur voiture était en panne à cause de d'essence, parce qu'en fait, on donne que 15 litres par personne, par voiture. Chaque fois qu'on dit au revoir, c'est un vrai au revoir, parce qu'on ne sait pas que si demain je peux parler ou dans 2 heures je peux parler à ma mère à nouveau. Je me sens paralysée. Parce que je peux pas les aider.
Au quatrième jour de l'attaque de l'Iran par Israël, Téhéran accuse l'État hébreu d'avoir pris pour cible un hôpital et dénonce un crime de guerre. L'armée israélienne, de son côté, affirme avoir détruit un tiers des lanceurs de missiles iraniens. Les présidents russes et turcs ont exprimé leurs préoccupations et appelé à la cessation immédiate des hostilités.
Le parc Peridaisa a un nouveau pensionnaire, un éléphanto, il est né ce week-end.
C'est le 5e bébé de l'éléphante Farina. Il va bien, il a pu se mettre rapidement debout et procéder à sa première tétée. À quoi vont ressembler ces journées à présent? Écoutez Nathan Lambert, le soigneur des éléphants à Peridaisa. Il est au micro de Sarah Salamone.
Alors oui, il va être entouré de toutes les éléphantes, mais il va suivre plus particulièrement sa maman. Donc il va boire tout au long de la journée et il va finir par prendre pas mal de poids pendant les quelques premiers mois. Et après quelques mois, il va déjà commencer à chipoter avec du foin, essayer de manger un peu d'herbe ou quoi que ce soit, et du coup continuer à évoluer jusqu'au moment où ce sera un vrai petit éléphant qui courra partout. Généralement, la taille adulte, elle peut être vers 15 ans, on peut déjà avoir des éléphants qui sont à taille adulte. Après, à 30 ans, on peut être certain que la taille est maximale. Alors, il faut pas mal de temps pour les éléphants pour grandir. Après, ils ont une espérance de vie qui est assez longue. Du coup, en fait, 30 ans, voilà.
Et il faudra lui trouver un nom à ce bébé éléphant. Le parc va faire 4 propositions et les internautes seront invités à choisir sur la page Facebook de Peridaisa. Il y a désormais 16 éléphants dans le troupeau du parc. RTL Sport est la 2e étape du Tour de Suisse, remportée au sprint par l'Italien Vincenzo Albanese. Le Français Romain Grégoire reste maillot jaune. Et puis en football, le retour de Mircea Rednic au Standard. Le Roumain, âgé de 63 ans, redevient l'entraîneur des Rouges après un premier passage en 2012 et 2013, et comme joueur aussi, c'était dans les années 90. La météo, tout de suite avec Stéphane. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Peggy, bonsoir à tous.
Le beau temps continue.
Exactement, toujours un temps calme pour ce soir et cette nuit avec de larges éclaircies, un ciel étoilé, peut-être quelques petites brumes, quelques bandes brouillard dans certaines vallées. Minima de 10 à 15 degrés, 13 degrés à la mer, 15 pour la capitale et 10 à 12 degrés en Ardennes.
Et le soleil revient demain ?
Le soleil reviendra demain avec beaucoup de soleil, des températures très agréables, pas aussi accablantes hein, qu'il y a 2-3 jours, de 20 à 28 degrés, un petit peu plus frais à la mer, 22 degrés avec une petite brise qui va se lever, 27 pour Bruxelles par exemple et 27 degrés également attendus à Liège avec beaucoup de soleil demain.
Et ce beau temps va continuer toute la semaine ?
Tout au long de la semaine, avec pour dire quelque chose, il fera un petit peu moins chaud, on va dire jeudi avec des maxima de 20 à 24 degrés, sinon des températures très agréables avec beaucoup de soleil tout au long de la semaine.
Merci beaucoup Stéphane. À demain.
À demain.
Vous avez à côté de vous, Peggy, l'homme qu'on entend souvent, mais dont on voit rarement le visage. Et pour la
Je
première fois,
découvre.
Il a choisi
enfin,
de venir physiquement Nous avons ce soir en studio Lorenzo Stefani. Bonsoir Lorenzo.
Bonsoir.
Merci d'être là, porte-parole de Touring, qu'on appelle d'ailleurs plus Touring depuis 2019, paraît-il. Mais je sais pas pourquoi on continue à vous appeler porte-parole de Touring.
Mais parce que Touring, ça reste Touring, c'est une ASBL, c'est même Touring Club Royal de Belgique.
Ah, j'aime bien le mot royal, ça va faire plaisir à Dany. Dès qu'il y a le mot royal quelque part, croyez-moi, ça lui fait du bien. Dany Sprotels, l'un des meilleurs avocats, voire le meilleur avocat de ce pays, est avec nous ce soir. Bonsoir Dany.
Bonsoir.
Vous savez que le porte-parole de Touring est arrivé en vélo. Alors là,
je le félicite, lui
qu'on croyait comme le représentant des automobilistes dans ce pays, qui était prêt à défendre sa vie pour les automobilistes, il vient lui-même à vélo.
Eh bien,
faut que vous nous expliquiez cette anomalie.
On voit beaucoup mieux l'état de la circulation lorsqu'on est à vélo, l'état d'insécurité que peuvent avoir la mobilité active. Si vous n'êtes pas à vélo, si vous n'êtes pas, et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à beaucoup de gens qui critiquent, hein. Mettez-vous dans le bain. Et vous allez voir quelle est la température de l'eau.
Ah ben, et
si vous êtes tout le temps dans l'angle mort, tout ceci, tout ça. Et d'ailleurs, on le voit, quand il y a un cycliste qui est un automobiliste, vous voyez très bien que c'est un automobiliste à vélo. Parce qu'il sait où il doit faire attention.
C'est de ma faute. J'ai mis une pièce dans la machine, là. On a lancé Lorenzo. Si vous avez cru l'espace d'un instant qu'il représentait désormais uniquement les cyclistes du pays, il a retrouvé son naturel immédiatement.
Il n'est pas venu en trottinette parce qu'on n'est pas sûr qu'il serait arrivé.
Je vous laisse libre, Dany, de cette analyse qui, évidemment, au vu de l'actualité, peut prêter, fait un petit peu froid dans le dos,
non,
là aussi.
Nous allons parler de mobilité.
Nous allons parler de mobilité, là, ce soir, parce qu'il est question de travaux et de tas d'autres choses avec deux superstars, Lorenzo Stefani, Dany Sprotels, notre Peggy National est également de la partie. Vous êtes dans le journal, c'est jusqu'à 19h.
18h-19h, vous êtes dans le journal avec Peggy Simonneau et Thibault Roland.
Et puisque l'équipe est au complet, ne tardons plus, rentrons directement au cœur de l'actualité. Voici la une de ce soir. C'est une sortie de Touring qui fait du bruit depuis ce matin. L'association de défense des automobilistes demande qu'on mette les bouchées doubles sur les chantiers qui se sont multipliés ces derniers mois en Wallonie. Il ne faut pas reproduire les errements du passé, explique Touring dans un communiqué en précisant qu'il est essentiel de planifier, de coordonner les travaux avec une rigueur exemplaire. Et Touring de sortir une proposition choc en demandant de recourir aux horaires élargis, au travail nocturne et lorsque nécessaire, au travail continu 24 heures sur 24. De quoi poser cette question? Le vrai problème des chantiers en Wallonie, est-ce que c'est qu'on ne travaille pas assez? Nous allons parler aussi d'une vidéo datée, mais qui a été publiée il y a seulement quelques jours. On y voit un détenu mort de rire, déguisé en gardien de prison. Mieux encore, ou pire encore, on y découvre ce détenu, vêtu de l'uniforme d'agent pénitentiaire, pénétré dans une autre cellule que la sienne, faisant le signe de la victoire et poussant des cris de joie. L'agente qui a prêté son uniforme au détenu a été aujourd'hui identifiée et mutée à la section des femmes de la prison d'Aron, mais n'a reçu aucune sanction malgré la gravité des faits. Mais c'est une autre interrogation que nous allons soulever ce soir. Y a-t-il aujourd'hui trop de proximité entre les détenus d'un côté et les agents dans les prisons de l'autre? Et puis demain à 16h, un rassemblement silencieux est prévu sur le campus de l'ULB pour soutenir les élèves musulmanes qui portent le voile. En cause, la décision d'un professeur d'obliger les étudiants et les étudiantes en bac 2 de psychologie de garder les poignets et les oreilles découverts durant tout l'examen de génétique pour éviter toute tentative de triche. Une mesure qui, pour l'Union syndicale étudiante, discrimine clairement les étudiantes qui portent le voile, qui, selon cette association, a déjà démontré son inefficacité lors d'un premier essai lors de la session de janvier. Alors demander aux étudiants et aux étudiantes d'avoir les poignets et les oreilles visibles, est-ce que c'est une vraie solution contre la triche? Et sinon, y en a-t-il d'autres? On en parle avec Dany, avec Lorenzo et bien sûr avec vous au 33-23. Vous êtes dans le journal, c'est parti.
Vous êtes dans le journal sur Bel RTL.
Bon ben Lorenzo, vous nous avez servi sur un plateau d'argent le premier sujet de la conversation de ce matin, ces fameux chantiers qui ont poussé comme des champignons ces dernières semaines et ces derniers mois en Wallonie et qui provoquent parfois bien des accidents. Écoutez Belinda Dematia, porte-parole de l'Agence Wallonne pour la Sécurité Routière, qui nous mettait en garde il y a de ça quelques semaines au RTL Info.
Les accidents autour de chantiers surviennent chaque année, on en a plus ou moins une centaine, avec plus de 170 blessés chaque année. Et chaque semaine, sur les autoroutes belges, on a 2 à 3 camions absorbeurs de choc qui sont endommagés dans le cadre d'un accident de la circulation.
Avant d'entendre Lorenzo sur son sujet de prédilection, Dany, vous allez prendre le point de vue de Sirius sur ce dossier-là. Vous qui voyagez du côté de Bruxelles, mais aussi régulièrement en Wallonie, notamment pour des raisons footballistiques, est-ce que vous avez d'abord été frappé, vous aussi, par le nombre de chantiers et surtout l'absence parfois de travailleurs sur ces chantiers?
Ça peut arriver, effectivement. Chaque fois que je dois me rendre en province, dans la région de Namur ou ailleurs, je déplore des chantiers qui sont absolument insupportables et on a l'impression qu'ils sont ouverts depuis une éternité. Il n'y a pas uniquement le problème de dire oui, mais ce sont éventuellement des travailleurs wallons qui ne travailleraient pas assez, parce qu'il y a un manque de coordination souvent entre différentes sociétés, une société appartenant à la région flamande, une autre appartenant à la région wallonne, et quand on interroge effectivement les spécialistes au niveau politique, ils se rejettent la balle en disant « oui, mais en réalité, nous, on ne peut pas agir avec cette personne puisque ça dépend d'une autre autorité et c'est assez désolant ».
Donc vous n'êtes pas dans le cliché du wallon fainéant, vous êtes plutôt à pointer du doigt la responsabilité politique ou administrative sur le manque de coordination.
Exactement.
Ça, c'est le point essentiel pour vous.
Exactement.
Lorenzo, je veux évidemment vous entendre et je sais que vous faites des petits bonds sur votre chaise depuis tout à l'heure parce que là, c'est un sujet chaud pour vous. Mais d'abord sur le nombre d'accidents et sur la vitesse. Parce que effectivement, vous pointez du doigt aussi le fait qu'il n'y ait pas de vitesse dynamique sur ces chantiers. En gros, que quand il n'y a pas de travailleurs, on pourrait rouler un petit peu plus vite par moment. Mais Belinda De Mattia, de l'agence Wallonne pour la sécurité routière, disait tout à l'heure, cette vitesse, elle a un sens. Écoutez-la.
Le principal élément quand on se trouve dans un chantier, c'est de bien respecter la limitation de vitesse en vigueur. Elle n'est pas là par hasard, elle est là parce que la configuration de la route ne permet plus de rouler à 120 km/h. Et aussi pour protéger les ouvriers qui travaillent, ces camions absorbeurs de choc, ce sont vraiment des boucliers qui protègent les ouvriers qui sont sur le chantier.
Avant de vous entendre, parce que dans votre communiqué, il y avait plusieurs éléments. Il y avait évidemment le fait qu'on ne travaillait peut-être pas assez sur ces chantiers, mais il y avait aussi la question de la vitesse. Qu'est-ce que vous répondez à Belinda De Mattia quand elle dit non, quand on limite la vitesse sur ces chantiers, c'est pour des raisons impérieuses de sécurité. Vous êtes plus nuancé par rapport à ça?
Largement. Il ne faut pas confondre tous les chantiers. Il y a les chantiers mobiles, avec ces fameux camions tamponneuses et qui se déplacent. Il y a les chantiers fixes, celui qui a deux ans déjà, sur le 411 et qui fait 12 km de long. Et ces marquages au sol, et ces limitations de vitesse qui, théoriquement, avec la largeur des bandes, par exemple, sur la E411, c'est 90 km/h qui est prévu. Et avant le nouveau ministre, c'était Madame Debu, la ministre, qui était tout à fait d'accord, mais qui devait en parler avec le ministre Henry, qui lui, évidemment, n'était pas du tout intéressé à adapter la vitesse.
Qui était le ministre de la mobilité à l'époque et qui était d'obédience
sécurité
écologiste.
Routière. Maintenant, ils ont tout mis ensemble et heureusement, on a un excellent contact avec le nouveau ministre, on a énormément d'espoir. Mais nous, on ne veut pas réinventer la roue. Lorsqu'on parle de 24 heures sur 24, attention, en Flandre, c'est ce qu'ils font. Vous savez qu'aux Pays-Bas, par exemple, en 72 heures, ils changent un pont. Un, parce que le pont était préfabriqué et deux, parce qu'ils ferment l'autoroute pendant 72 heures et ils mettent les bouchées doubles, comme disait mon frère, mais les bouchées triples, parce qu'il y a trois rotations de 8 heures.
Et donc vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Dany, il y a un problème de culture du travail qui explique qu'en Flandre, on va plus vite sur ces chantiers.
C'est pas tout à fait une culture du travail, on ne remet pas en question, les travailleurs sont là, ils ont besoin de sécurité, c'est une question de coordination, mais de volonté politique, de mettre et de prendre l'exemple avec la Flandre, prendre l'exemple de la Hollande ou de l'Allemagne. Ce sont des systèmes qui existent et qui tournent. Quand vous allez à la mer, vous n'avez pas pendant deux ans un chantier sur l'autoroute. Donc, ne réinventons pas la roue et faisons comme les Flamands le font.
Ah mais dans
et
un
Bruxelles,
instant,
même chose.
Dans
il y a
un
de
instant,
problèmes.
Je vous ai dit que Dany, sur ce dossier-là, aurait vraiment le point de vue de Sirius. Il voyage aussi bien du côté de la Flandre que du côté de la Wallonie. Il nous dira si, effectivement, il a perçu une différence sur les chantiers entre les deux régions du pays. Et puis, on vous attend, vous aussi, par SMS au 3323 pour revenir sur ces chantiers qui empoisonnent depuis des mois et des mois la vie des Wallons. Est-ce que le problème sur ces chantiers, c'est qu'on ne travaille pas assez? On veut entendre votre sentiment, y compris le sentiment des professionnels. On a besoin de vous ce soir. Vous êtes dans le journal jusqu'à 19h.
Vous êtes dans le journal sur LRTL.
Vous voulez réagir dans l'émission? Posez vos questions sur WhatsApp au 0474 24 24 24. Ne ratez pas nos promos de la semaine chez Bricoplanit. À partir de 40 euros d'achat avec votre carte de fidélité, vous profitez jusqu'à dimanche de 20% sur les portes et les lambris et même 25% sur le stratifié, les parquets, les vinyles et le carrelage. Ne manquez pas ces offres incroyables. Rendez-vous dès maintenant chez Bricoplanit. Conditions en magasin.
La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous invitent à vivre un été savoureux. Grâce aux fines charcuteries Aubel, tentez votre chance pour remporter un barbecue à domicile et impressionner vos amis ou votre famille. Inscrivez-vous vite sur sudinfo.be/concoursaubel pour participer à ce grand concours.
Quand on achète quelque chose en ligne, on on choisit toujours ce qui a le plus d'étoiles. Mais pour ma voiture, je choisis toujours celle qui n'en a qu'une.
Une Mercedes-Benz ne reçoit pas son étoile par hasard. Elle la mérite. Car seuls les modèles qui répondent aux attentes les plus élevées garantissent la meilleure expérience de conduite. Bénéficiez dès maintenant d'avantages attrayants durant les Star Days chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz.
L'astuce IKEA de la semaine. Ça sent enfin l'été. Pour fêter ça, profitez de moins 15% sur une large sélection d'articles d'été.
IKEA.
Pour les membres IKEA Family. Info sur IKEA.be.
18h-19h, vous êtes dans le journal sur Bel RTL.
Vous êtes dans le journal avec ce soir Danis Protels, l'un des meilleurs avocats pénalistes de ce pays, de l'autre, Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring, qui est avec nous pour commenter toute l'actualité, mais évidemment les questions de mobilité. En parlant de questions de mobilité, nous parlons de ces chantiers qui empoisonnent la vie des Wallons. A-t-on un problème avec le travail sur ces chantiers? Est-ce qu'on ne travaille pas assez en Wallonie? Dani, je vous pose la question à 1000 francs, et vous risquez de vous mettre la moitié du pays à dos. Est-ce qu'effectivement vous avez l'impression qu'en Flandre, on travaille plus qu'en Wallonie sur ces chantiers?
J'ai en tout cas le sentiment que les chantiers qui sont ouverts en Flandre le restent beaucoup moins longtemps.
Ça va plus.
Et je reprends toujours l'exemple de la E411 vers Namur, où on ne voit rien avancer. Alors moi, je vais certainement pas vous dire que ce sont les travailleurs qui sont déficients, mais en tout cas, au niveau de l'organisation, là, il y a de très gros problèmes.
Il y a un côté se rane, pourquoi ne vois-tu
mais
rien
des
venir?
Des fois, on ne voit pas les ouvriers, mais il n'y a pas que le revêtement, il n'y a pas que la surface, il y a en dessous de l'autoroute, il y a d'autres passages sur les bords d'autoroute, il y a des passages qui doivent être réservés parce qu'il y a des... Au moment où vous êtes passé, vous ne l'avez pas vu, mais il y a des camions, il y a tous des services du matériel qui doit être transporté, et ça, ils ne le font pas pendant dans la circulation, mais ils le font sur des bandes séparées. Mais tout de même, nous observons, nous avons des milliers de membres qui nous écrivent, et qui disent qu'ils ne voient personne. Donc ce n'est pas seulement nous, ni vous, quand vous avez été. Nous, on fait partie aussi, et on représente tous les membres et tous les usagers à l'Agence Wallonne de la Sécurité Routière à Namur, qui est présidée d'ailleurs par le nouveau ministre. Et j'y vais deux fois par semaine, en voiture, pas à vélo, n'est-ce pas? J'ai essayé en train, ça n'allait pas non plus parce que le train va plus vite. Mais seulement
mais c'est important
quand
parce que
roule.
Vous prouvez que finalement Touring est du côté de la multimodalité aujourd'hui.
Et on le pratique, mais la problématique c'est le marquage au sol, ce sont des vitesses qui ne sont pas du tout cohérentes. Je me fais moi-même dépasser par un camion dans un chantier. C'est pour vous dire que lorsque vous savez une vitesse, il faut qu'elle soit justifiée et cohérente. Et l'objectif d'une réglementation de vitesse, ça ne doit pas être la vitesse elle-même, ça doit être l'adhésion au règlement.
La question, franchement, vous avez l'impression qu'on met des limitations de vitesse excessives pour pouvoir flasher et pour pouvoir choper dans la poche des francophones ou des flamands d'ailleurs qui traversent nos routes?
Elle n'est pas réfléchie, elle réfléchit différemment. Pourquoi hors agglomération c'est 70 km/h en Flandre, c'est 90 km/h en Wallonie, alors qu'en Wallonie c'est bien plus assuré comme surface, comme route, il y a des tournants, ce n'est pas le plateland de la Flandre. Donc il faut repenser la mobilité, les réglementations de vitesse de manière holistique. Les Scandinaves sont les premiers de la classe. Eh bien eux, ils pratiquent le V85. Si sur un tronçon, vous avez 85% des personnes qui roulent spontanément à 70 km/h, eh bien les autorités mettent 70 km/h.
On revient sur ce problème de coordination, c'est quelque part le mot à mettre à l'honneur ce soir. Dani, je voudrais vous faire écouter la voix de certains Wallons qui, face aux bouchons, sont quelque part résignés, voire carrément un peu désespérés. On était à l'époque à la veille des élections.
On essaye toujours de partir un peu plus tôt, mais on arrive quand même toujours en retard à nos réunions, donc voilà.
Peut-être pour les élections, il faut que ça se fasse, mais je crois qu'ils ont, ils ont fait trop de travaux en même temps et que là, ça n'avance pas. Et puis voilà, on perd du temps,
Alex du côté de Bruxelles nous rejoindra dans un instant. Mais vous n'avez pas l'impression, Dani, que les travaux, les chantiers, c'est quelque part une vitrine aussi pour la Wallonie ou pour une région dans son ensemble. Et donc c'est la première image qu'on se fait de cette région. Est-ce que là, la Wallonie perd pas des plumes dans cette aventure?
C'est certain, parce que si c'est une image, on peut affirmer que cette image elle est tout à fait médiocre, puisqu'on a l'impression que ça n'évolue pas rapidement. Puisqu'on a l'impression que finalement l'organisation elle est mauvaise, puisqu'on sait que la coordination est souvent totalement déficiente, c'est une très mauvaise publicité.
Mais donc, vous qui étiez le premier tout à l'heure à dire « je ne veux surtout pas tomber dans le cliché du wallon fainéant », vous dites malgré tout « ça peut alimenter ces clichés ».
Je ne dis pas que les travailleurs wallons sont fainéants, pas du tout. Mais je dis que la façon d'organiser le travail laisse souvent à désirer.
Alors à propos de coordination, on posera la question à Lorenzo dans un instant de savoir si c'est possible de mettre en place des chantiers 24 heures sur 24. Peggy a des infos aussi là-dessus pour nous. Mais avant ça, allons du côté de Bruxelles où nous attend Alex ce soir. C'est la première correspondance du jour. Bonsoir Alex.
Oui, bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes du côté de Bruxelles, vous, pour le coup. Et vous êtes dépité, vous, quand vous allez sur les routes wallonnes.
Ben, pas seulement les autoroutes wallons, mais en tout cas, il y a tellement de chantiers parfois qu'on passe, il n'y a personne, on ne voit personne, pas de mouvement, rien, les engins à l'arrêt. Et je crois que... Je ne sais pas comment c'est fait, mais je crois que les compagnies ou sous-compagnies que font les traitements, que t'es prises par le gouvernement, ça traîne, et on va...
C'est un problème 100% wallon pour vous, ou c'est partagé malgré tout, vous l'observez aussi à Bruxelles, où c'est vrai qu'il y a des chantiers régulièrement, et peut-être même du côté de la Flandre, où Dany avait l'air de dire, au même titre que Lorenzo, que ça tourne mieux.
Oui, mais je crois que c'est une façon, je sais pas, d'organisation, ou parfois, même d'autres chantiers, style d'ouverture des trottoirs, machin, on voit trois personnes assises en train de regarder leur téléphone, qui travaillent pas, et un seul qui est en train de chipoter.
Ah ben vous allez plus loin que Dany, vous dites qu'il y a un problème de culture du travail, avec quelque part des gens qui ne bossent pas assez chez nous. Merci Alex d'être intervenu du côté de Bruxelles. J'ai un message là qui vient de tomber d'un chauffeur professionnel. Je confirme, je suis chauffeur professionnel, toujours des ouvriers en Flandre, personne ou deux ouvriers une fois de temps en temps, à Havre, à Bruxelles c'est encore pire, il n'y a personne. Lorenzo, comment vous allez faire vous pour convaincre du coup tous ces gens, toutes ces sociétés de travailler 24 heures sur 24? C'est une provocation, vous y croyez vraiment?
Mais non seulement on y croit, mais ça existe dans les pays limitrophes et en Flandre, donc c'est quelque chose. Mais vous avez parlé d'une vitrine, c'était quelque chose de très important. La durée d'un chantier est son pire ennemi. Donc c'est ça qu'il faut soigner, car plus un chantier dure, plus il coûte cher, plus il gêne et plus il use la patience des usagers. Il devient un symbole d'inefficacité, un nid de frustration, un repoussoir pour toute forme de compréhension. Mais alors que il y a des moyens pour réduire ces délais. Il y a travailler la nuit et le week-end, mettre en place des équipes en relais, utiliser des matériaux préfabriqués, planifier intelligemment les phases et les interruptions, imposer des clauses de pénalité et de bonus dans les marchés publics et surtout arrêter d'étaler des interventions sur des mois alors qu'elles pourraient être concentrées sur quelques jours. Il y a par exemple un entrepreneur qui a un cahier de charges et il dit « Ok, ces quatre chantiers, je les prends ». Et il les installe tous les quatre en même temps. Et puis, de temps en temps, il met une équipe sur l'un, de temps en temps, il met une équipe sur l'autre. Ce n'est pas possible. C'est un manque de bon sens, carrément. Alors, et donc, c'est là où nous avons déjà discuté avec le ministre de Ken, et il va reprendre tout ça. Que ce soit la signalisation dynamique, ou que ce soit la politique des relais et du temps et durée des chantiers, et la synchronisation du fait que, parce qu'aujourd'hui, pour aller à Namur, il n'y a plus que celui des 10 kilomètres d'Ossouperwe, hein. Il y a quatre chantiers, hein. Il y a le carrefour Léonard qu'on connaît, il y a Jezuseik, tout le pont Jezuseik qui va être transformé, il y en a un autre à Wavre pour la bretelle qui va être
vraiment envie d'aller jusqu'à Namur.
On en a quatre, mais je vous dis, c'est vraiment, et là, en plus, la limitation passe de 70, 50, 90, 90, 50, 70. Non, ce n'est pas possible, ça ne va pas. Et ça pollue beaucoup plus.
Alors, je vous avoue que la Sofico nous a écrit une longue lettre, une longue missive de 3 pages avec des tas d'explications. Mais avant ça, on va s'intéresser aux recherches de Peggy qui a voulu savoir si des chantiers qui tournaient déjà 24 heures sur 24, ça existait. Et si oui, à quelles conditions? C'est le moment d'un point info.
L'info qui change tout.
En Wallonie, est-ce qu'on voit des chantiers où on travaille 24 heures sur 24? C'est la question à 1000 points ce soir.
Ça se fait, parfois, hein, c'est ce que m'indique la Sofico, le gestionnaire du réseau des autoroutes en Wallonie et des principales nationales. Il y a donc bien des chantiers qui se déroulent la nuit, par exemple les chantiers d'entretien. En ce qui concerne les chantiers de réhabilitation de longue durée, donc, selon la Sofico, il n'est en général ni nécessaire ni pertinent de travailler 24 heures sur 24. Pourquoi? voies pour des raisons techniques comme le manque de visibilité ou les températures. Autre contrainte, d'abord, les usines de production comme les centrales à béton ou les centrales d'enrobage bitumineux ne peuvent pas travailler la nuit pour des raisons de nuisance infligées aux riverains. Ensuite, le transport des déchets tels que des débris, les terres, les produits de démolition, tout ça, ça ne peut pas non plus être effectué de nuit. Et puis, les centres de traitement de ces déchets sont également fermés la nuit. Tous ces critères compliquent la tenue d'un travail en continu 24 heures sur 24. À cela s'ajoute le coût des chantiers de nuit et le bruit qu'ils occasionnent dans le voisinage avec des habitants pas contents du tout d'être dérangés pendant qu'ils dorment. Malgré ces contraintes, il arrive que des travaux soient menés la nuit. Par exemple, sur le ring de Bruxelles en 2023, le chantier de réhabilitation et de sécurisation de Braine-l'Alleud jusqu'à la région flamande, ça a été un chantier mené 7 jours sur 7, 2 jours comme 2 nuits. Ça a été le cas aussi de la liaison E25-42 avec la A602 en région liégeoise, ou le renouvellement des revêtements sur la E42 de Flémal à Orion-Osémont. La Sophie Collodi, dès qu'elle le peut, elle a recours au travail de nuit afin de réduire les délais, mais il faut que ce soit pertinent et possible, surtout lorsque l'impact trafic est particulièrement conséquent.
Avant de parler des prisons, Lorenzo, je voudrais qu'on s'arrête sur un message qui vient de tomber. Message signé Michel. Alors, il cite une société, dont on ne va pas répéter le nom de ce soir, qui aurait 36 chantiers en cours et qui serait incapable d'en terminer un. C'est possible, ça ?
Oui, c'est possible.
Une situation pareille, 36 chantiers en cours.
C'est énorme, mais c'est le personnel aussi que vous devez trouver. Il y a sur 36 chantiers...
On ne peut pas accepter des chantiers sans savoir si on a le personnel ou pas.
Ça, c'est la problématique. C'est là où il faut vraiment plus de bon sens, d'analyse. 36 chantiers, ça veut dire combien de camions, combien de grues, combien de transports de matériel. Donc, ce n'est pas même pas un problème de main-d'œuvre,
d'humain. C'est de logistique, c'est de matériel.
C'est de matériel. Et c'est de signalisation. Tous ces chantiers doivent être signalisés, ils doivent être enregistrés administrativement, la police doit être au courant. Et d'ailleurs, nous demandons aussi de communiquer beaucoup plus avec les sociétés de GPS, avec les déviations. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Beheerverkeer en Flandre. C'est mon collègue Danny Smag qui s'en occupe. Et par exemple, lorsqu'il y a des chantiers importants sur la A12, eh bien, on leur demande de mettre en place sur la parallèle qui est la Bobsteinweg également, eh bien de mettre une déviation et de pouvoir alors fluidifier le trafic.
Et on nous parle aussi d'un système de primes que vous avez évoqué tout à l'heure. Quand il y a eu des travaux sur la E42 à Andenne, il pouvait y avoir une prime si le chantier finissait plus tôt. Comme par hasard, ça a fini plus tôt que prévu, la preuve que l'incitant peut fonctionner. Dans un instant, nous changeons de décor et nous changeons de domaine. Nous allons parler de la situation dans nos prisons avec des accointances de temps en temps entre d'un côté des détenus et de l'autre des agents ou des agentes pénitentiaires. Est-ce qu'il y a trop de proximité entre les deux ? On vous raconte l'histoire dans un instant et on en parle avec vous au 33-23.
Vous êtes dans le journal ? Reviens dans quelques instants sur Bell RTL.
Vous écoutez Bell RTL.
Titre préféré. Vous êtes dans le journal. sur Bell RTL.
Vous êtes dans le journal avec ce soir Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring, Danis Protels, l'un des meilleurs avocats pénalistes, et bien sûr avec vous par SMS au 3323, par WhatsApp au 0474 24 24 24. Nous revenons sur une vidéo qui, semble-t-il, est déjà un peu datée, mais qui a été publiée ces derniers jours. On y voit un détenu mort de rire, déguisé en gardien de prison. Avec cet uniforme d'agent pénitentiaire, il parvient même à pénétrer dans une autre cellule que la sienne, et il fait le signe de la victoire. Il pousse des cris de joie. Ce vêtement, c'est celui d'une agente pénitentiaire qui lui a apparemment prêté sa veste. Elle a depuis été mutée, elle a changé de prison, elle était à Forêt, elle est aujourd'hui du côté d'Arun. Alors on dit qu'elle n'a pas eu de sanction. Peggy, vous avez eu des précisions par rapport à ça. Soyons très prudents.
Dans la communication avec l'administration pénitentiaire, il est bien précisé, même souligné, que l'affaire fait désormais l'objet d'une procédure disciplinaire.
Elle a été mutée, c'est une première étape, mais peut-être y aura-t-il une sanction supplémentaire après. Dany, ce monde des prisons, vous le connaissez évidemment par cœur en tant qu'avocat pénaliste. Vous avez l'impression d'abord que la relation entre les détenus et les agents pénitentiaires a changé ces dernières années, que ce soit dans un bon sens ou dans un mauvais sens?
Alors, je vous dirais que j'ai toujours entendu parler des prisons comme d'un monde où rien ne fonctionne correctement. Mmh. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez tellement de grèves, de gardiens notamment. Et quand j'étais avocat stagiaire, on en parlait déjà. Et aujourd'hui, tant d'années plus tard, c'est encore le même problème. Alors, souvent, on dit qu'il faut essayer d'établir un contact humain entre le gardien et le détenu, parce que c'est aussi là un moyen d'établir des échanges qui doivent être positifs pour ne pas ressortir comme quelqu'un qui a été totalement privé de contact. Alors, vous avez aussi une autre tendance à l'heure actuelle. On a parlé beaucoup de la prison de Arun, et le premier reproche que l'on fait ceux qui sont,
c'est qu'elle est déshumanisée.
Qu'il fait, c'est que c'est totalement déshumanisé, que vous n'avez plus que des bruits, les uns plus suspects que les autres, mais qui font que vous n'avez plus l'impression d'être dans une société où les humains échangent des points de vue. Ça, c'est la réalité du terrain. Mais quand on constate que certains détenus ont des rapports à ce point étroit avec des gardiens, là, on est dans une situation à très haut risque, parce qu'il est évident que ces gardiens sont corruptibles. On sait très bien qu'ils ne gagnent pas bien leur vie. On sait
Il est notamment dit au sujet de cette vidéo qu'évidemment, le détenu aurait pu la faire chanter sur base de cette vidéo en disant « Je vais publier cette image. »
Ça, c'est une des hypothèses.
Si tu ne m'accordes pas tel ou tel privilège, par exemple.
Et alors, à partir du moment où on voit effectivement un détenu avec une tenue de gardien, mais rendez-vous compte de l'image qui est donnée au niveau de l'autorité, à ce moment-là, elle est nulle, et c'est en plus extrêmement dangereux au niveau de la sécurité, si l'on sait qu'effectivement, il y a pas mal d'évasions, parce qu'on a pu adopter la tenue, par exemple, d'un policier.
Donc il aurait pu potentiellement sortir de prison grâce à cette veste.
Donc c'est éminemment inadmissible, et j'espère, comme dit Peggy, qui a appris qu'il y aurait une procédure en cours, mais de toute façon, je trouve que quelqu'un qui a ces faiblesses-là...
Mais l'administration pénitentiaire le dit, elle est très préoccupée par ce genre d'affaires-là.
Ben, je l'espère, parce que si elle n'est pas préoccupée par ce genre de comportement, par quoi va-t-elle être préoccupée? Parce que... Et je trouve que l'agent pénitentiaire qui se prête à des jeux entre guillemets semblables mérite ou de lourdes sanctions, ou tout simplement d'être considéré comme non apte à exercer cette fonction.
Si on se fait l'avocat du diable, Dany, on va vous dire que des histoires entre des détenus et des agentes ou des agents pénitentiaires, ça a toujours existé. Écoutez, par exemple, Sonia, gardienne de prison, qui est tombée amoureuse d'un détenu. Elle a beau lutter et lutter tant et plus, elle n'y est pas arrivée.
On s'est croisés, il y a eu un courant électrique, j'ai pas compris.
Ça s'appelle un coup de foudre.
C'est ça, complètement. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Je pensais à lui le soir en rentrant à la maison.
Est-ce que vous avez essayé de vous raisonner?
Oui. J'ai essayé. Je dis, faut pas. En plus, il a pris 25 ans. Mais je pouvais pas, c'était trop fort, quoi. Donc, j'ai dit, tant pis, j'y vais, quoi. Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, hein.
L'amour a pas tiré le bon numéro là, parce qu'un détenu qui avait pris 25 ans pour une histoire d'amour, c'est pas le scénario le plus simple. J'imagine que des histoires pareilles, vous en avez entendu tant et plus, Dany.
Beaucoup. Vous avez des gardiennes, ou ça peut aller dans les deux sens, mais vous avez des gardiennes qui tombent effectivement amoureuses de certains personnages, parce qu'il y a aussi le mythe du gangster séduisant. Ouais. Mmh. Ça existe dans beaucoup de films. On voit effectivement les Belmondo, les Delon, qui sont très séduisants, qui sont effectivement des gangsters. Alors ce genre de situation n'est pas rare, mais ça implique évidemment, au niveau de la direction, qu'on soit extrêmement vigilant, parce que vous imaginez bien que si une femme tombe amoureuse éperdument d'un détenu, si il demande quelques, entre guillemets, facilités, elle va les accorder, et c'est comme ça qu'on arrive aussi à
et là,
à
je crois que Sonia, en l'occurrence,
absolument inadmissible,
avait renoncé à son métier d'agent de pénitentiaire pour justement laisser toute la place à cette histoire d'amour. Lorenzo, sur ce coup-là, vous reprenez votre casquette citoyenne et votre casquette de père de famille.
Ouais.
Est-ce que vous êtes inquiet de voir que ce genre de relation peut se tisser dans nos prisons? Est-ce que ça dit quelque chose pour vous d'inquiétant sur la société?
Il n'y a pas seulement cette relation, mais si on revient sur, ce n'était pas un sketch. Mmh. Et d'ailleurs, ce qui est le plus grave, selon moi, en tant que père de famille, c'est que ça ne choque même plus tout le monde. Mmh. Et ça vient de bien plus loin, parce qu'on pense plus à ce qui est juste ou approprié. On pense à ce qui va faire du clic, du like et du buzz.
Oui, en l'occurrence, ici, le détenu ne visait que ça.
Exactement. Hein. Et donc, on est dans un monde de TikTok, de Snapchat, d'Instagram. On ne vit plus pour construire, on vit pour performer, pour capter l'attention dans un monde qui va trop vite, où la vitesse a remplacé la profondeur. Et je dirais même, on vit à une vitesse qui écrase la réflexion, le bon sens et la responsabilité.
Mais finalement,
surtout dans une prison où le respect...
Mais Lorenzo, ça veut dire que la prison n'est que le symptôme de ça, d'un mal que vous voyez beaucoup plus profond, le mal du buzz, le mal des réseaux sociaux, le mal de la petite phrase, du clic.
Mais pas au détriment, il y a aussi la partie humaine, mais le respect ne se transmet plus. On a inversé l'éducation. On demande aux enseignants, aux surveillants, aux policiers de rattraper ce qu'il n'y a plus dans les maisons, que la famille avait créé, ces points de repère qu'on avait. Parce que tout ce qu'on voit là dans une prison, on le voit aussi à l'extérieur, parce qu'il n'y a plus de place d'ailleurs dans les prisons. Donc ici, c'est un coup de théâtre, hein, parce que c'est un buzz énormément. Si c'était dans un restaurant, ça aurait fait beaucoup moins le buzz peut-être. Et donc c'est dans ce monde-là que moi en tant que père de famille on regrette vraiment et que
Je me sens presque nostalgique d'une époque perdue. Lorenzo, vous nous direz dans un instant comment est-ce qu'on peut remédier à ça, et on aura aussi avec nous Muriel qui a réagi au 33-23. Histoire incroyable. Elle a un couple d'amis. Lui était incarcéré, elle était agente pénitentiaire. Ils sont en couple aujourd'hui. A-t-elle pu garder son boulot ou pas? Muriel nous le dira dans un instant. Vous êtes avec nous au 33-23 jusqu'à 19h.
Vous êtes dans le journal sur Belle RTL.
Réagissez durant l'émission sur WhatsApp au 0474 24 24 24. 200 € pour une piscine gonflable. Au moins, vous en aurez profité une journée. Des vacances, des vraies avec Sunweb. À partir de seulement 104 € par jour, profitez de la plage ou de la piscine.
Et des toboggans
en Grèce. Vol et séjour all-inclusif inclus et soleil garanti.
Et des glaces.
Réservez maintenant vos vacances last minute au soleil avec la garantie du prix le plus bas sur sunweb.be. Sunweb Holiday.
Peugeot.
Chez Peugeot, il y a des conditions indomptables.
Indomptables? C'est osé?
Pendant tout le mois de juin, dans tous les points de vente Peugeot.
Ah, vraiment partout? Osé?
Avec des prix attractifs sur toute la gamme. Comme une Peugeot 208 à partir de 15 900 €.
Oh là là, ça, c'est vraiment osé.
Ne laissez pas s'échapper les conditions indomptables chez Peugeot. Rendez-vous dans votre point de vente. Offre sous conditions. Prime de recyclage conditionnelle déduite. Plus d'infos sur Peugeot.be.
Peugeot.
L'astuce IKEA de la semaine. Ça sent enfin l'été. Pour fêter ça, profitez de moins 15% sur une large sélection d'articles d'été.
IKEA.
Pour les membres IKEA Family. Info sur IKEA.be.
Tu as faim, Marguerite?
Je vais faire un tour en tracteur. Vroom, vroom.
Faut pas chercher loin pour rencontrer ces modèles en vrai.
Tu as faim, Marguerite?
Je vais faire un tour en tracteur.
Les journées fermes ouvertes les 28 et 29 juin. Informations et programmes sur jfo.be. Une action de la PACW avec le soutien du plan de relance de la Wallonie.
Dans la vie, c'est toujours « et partir du taf en nage, et le stress des embouteillages, et faire ci, et ça, et oh, la batterie à plat. » Chez Qwait Electric aussi, c'est toujours « et charger rapidement, et charger ici, et bientôt là aussi, et avec un Anka, se recharger soi. » Parce qu'on est une station de recharge et une station pour plein d'autres choses. Qwait Electric.
Vous êtes dans le journal sur Bell RTL.
Et nous revenons ce soir sur cette aventure, cette histoire incroyable. Un détenu qui a publié sur les réseaux sociaux la vidéo où on le voit porter le vêtement d'une agente pénitentiaire, vêtement qu'elle lui a prêté. Il entre dans une autre cellule avec ce vêtement sur lui, fait le signe de la victoire, pousse des cris de joie. L'agente n'est pas encore sanctionnée au moment où on se parle, elle a simplement été mutée dans une autre prison. Et évidemment, tout cela interroge la proximité entre les détenus d'un côté et les agentes et les agents pénitentiaires de l'autre. Proximité qu'on va pouvoir interroger aussi avec Muriel, qui nous rejoint ce soir et qui est du côté d'Andenne. Nous ouvrons une nouvelle correspondance. Bonsoir Muriel.
Bonsoir Thibault.
Merci d'être là. Alors là, cette histoire, elle a fait tilt immédiatement chez vous.
Et je vous, et c'est véridique en plus. Bah, tout Andenne le sait, mais bon, ils sont tellement mignons les deux, mais c'est la vérité.
Donc, alors on reprend l'histoire au début. Vous avez deux copains. L'un qui était en prison, elle était surveillante, agente pénitentiaire, ils se sont mis en couple.
Tout à fait.
Sauf qu'elle a dû lâcher son boulot.
Ah ben elle a été virée.
Ah.
Complètement. Ah oui, tout à fait, elle a été virée. Et voilà, donc ils se sont retrouvés, elle sans rien. Et voilà, ils sont tous les deux, mais repartis sur un bon pied. Et je trouve ça, ben, c'est bon.
Mais Muriel, il est toujours en prison ? Il est toujours en prison, le monsieur ?
Non, ils sont sortis. Lui est sorti, et elle s'est fait virer. Et elle l'a entendu. Ah oui, tout à fait.
Mais elle a été virée, ça veut dire qu'elle n'a même pas eu l'occasion de s'expliquer auprès de sa direction, de demander pourquoi pas d'être mutée, de changer de prison ?
Non.
Mais ça fait partie des règles.
Elle a été carrément virée.
À respecter.
Oui, tout à fait.
Bon, et aujourd'hui, ils sont bien, ils sont heureux.
Ah, eux deux, ils sont heureux. Quand on les voit, ils sont vraiment heureux tous les deux. Je suis vraiment contente pour eux. Et voilà, ils ont un petit logement. Et ils ont commencé à dormir dans une tente au départ, dans les bois. Et maintenant, ils ont trouvé, ils sont très bien, quoi, tant mieux pour eux.
Bah écoutez, c'est la preuve par A plus B que des belles histoires peuvent naître aussi ou en prison. Et que même si on interroge cette proximité entre les détenus et les agentes, ça vaut parfois le coup d'aller jusqu'au bout. Merci Muriel d'avoir témoigné du côté d'Andenne. On va justement s'interroger sur les règles de distance ou pas à garder pour les agentes et les agents pénitentiaires à l'égard des détenus. C'est le moment de faire un point info avec Peggy.
On veut comprendre.
Dany parlait de cette nécessaire humanité dans le lien entre détenus et agents. Est-ce qu'il y a des règles de distance à respecter malgré tout ?
Alors, il n'y a pas de règles précises et explicites dans le code de déontologie des agents pénitentiaires en matière de distance physique à respecter avec les détenus. Si vous me demandez s'il y a une règle de 35 cm à respecter, ça n'existe pas. Mais ce code établit des principes généraux de respect, d'intégrité et de limites relationnelles entre le personnel et les prisonniers. Selon l'administration, ce qui est prévu, c'est de respecter tout simplement des relations professionnelles sans familiarité ou proximité injustifiée. La règle générale, je le dis au passage, c'est d'éviter toute relation qui pourrait compromettre l'intégrité du service ou la sécurité de l'établissement. Bref, respecter une distance adéquate et ne surtout pas avoir de relations non professionnelles avec des détenus, y compris ceux qui ont été libérés, ni avec leur famille ou leurs proches. Si un agent pénitentiaire se pose des questions, hésite sur la manière de procéder, il peut aller trouver un référent ou un mentor qui pourra lui recommander la meilleure attitude à adopter conformément au code de déontologie. Et donc, si ce code n'est pas respecté, l'agent s'expose à l'ouverture d'une procédure disciplinaire avec des sanctions à la clé. C'est ce qui est arrivé donc après que cette vidéo soit parvenue à l'administration pénitentiaire.
Est-ce que c'est pas ça précisément le problème d'Annie aujourd'hui ? C'est que les agentes et les agents pénitentiaires ne connaissent plus le cadre exact à l'intérieur duquel ils doivent travailler.
Est-ce qu'ils connaissent toutes ces règles ?
Mais est-ce qu'ils connaissent encore ?
Il y a quand même une hiérarchie. Il y a quand même aussi des formations. Est-ce qu'il manque de formation ?
Mais c'est toujours le même problème. Quand on évoque les problèmes, et on en a beaucoup parlé récemment avec de jeunes policiers, on en arrive à dire que leur formation est insuffisante, qu'on n'a pas suffisamment mis en évidence des règles. Ici,
ici, c'est pas le problème qui se pose. Ils ont le code de déontologie, c'est au cas où ils ne s'y retrouvent pas ou s'ils ont une question.
Tout à fait d'accord, mais n'empêche que la formation, elle est extrêmement limitée aussi. Et c'est toujours le même problème. Alors, vous avez des garçons, là, qui arrivent dans ce microcosme. Ils sont ravis d'avoir trouvé un travail parce qu'ils cherchent depuis longtemps. Et puis, manifestement, ils peuvent être confrontés à des situations très difficiles à gérer. Parce que, croyez-moi, être gardien de prison, c'est tout sauf évident. Parce que si vous avez des détenus qui sont éventuellement même charmants lorsqu'ils sont détenus, vous en avez qui sont comme des bêtes en cage. Donc, c'est vraiment il faudrait une formation très soutenu, avec des approches psychologiques
et vous avez
qui
insisté,
ne sont pas réalisées.
Dany, hors antenne, vous avez insisté aussi sur le côté manipulatoire de certains détenus, qui roulent des agentes ou des agents dans la farine à coups de séduction et autres. Est-ce que précisément contre ça, ils sont formés, contre les risques de manipulation dont ils peuvent être l'objet?
Certainement pas. Certainement pas. Et on leur dit, vous devez être très attentif, vous devez être prudent. Mais ça, ce sont des recommandations, mais ce n'est rien d'autre. Par contre,
mais ça demande une force de caractère.
S'il y avait une formation, notamment sur le plan psychologique, et qui soit avérée, ça changerait beaucoup. Et quand Peggy dit, c'est une question de caractère, vous avez de force de caractère, vous avez des gardiens ou des gardiennes qui ont des caractères forts. Mais si vous avez des gens qui sont eux-mêmes fragiles, qui sont eux-mêmes en manque affectif et qui subitement rencontrent là des gens qui apparemment sont tout à fait charmants, je peux vous dire qu'au niveau du leadership sur le plan psychologique entre un truand qui veut être charmant et une pauvre gardienne qui est en déficit affectif, il n'y a pas match, comme
on
dit.
D'où l'importance de l'encadrement psychologique dans les relations entre les détenus et les agentes et agents pénitentiaires. Dans un instant, il va être aussi un peu question de psychologie, mais pas que. Rassemblement silencieux prévu sur le campus de l'ILB en soutien aux élèves musulmanes. Pourquoi ? Parce qu'un prof a établi des règles contre la triche, les poignets et les oreilles découverts, qui discriminerait les jeunes filles musulmanes qui portent le voile. Alors que doivent faire les profs pour lutter contre la triche ? Là encore, on vous attend en 33-23.
Ne bougez pas, vous êtes dans le journal. Reviens dans quelques instants sur Bel RTL. Bel
RTL, tous vos titres préférés.
Titre préféré.
18h-19h, vous êtes dans le journal sur Bel RTL.
Ah, c'est la sonnerie d'école, voire la sonnerie de l'université qui retentit. La session d'examen arrive et les profs, évidemment, rivalisent d'ingéniosité pour lutter contre la triche. À l'ULB, un professeur a décidé de demander à tous les étudiants et à toutes les étudiantes d'avoir les poignets et les oreilles découverts lors de l'examen de génétique en deuxième psychologie de bac 2. Sauf que cette mesure est jugée discriminatoire par les cercles étudiants qui vont se réunir demain. Pourquoi discriminatoire ? Parce qu'évidemment, les élèves musulmanes qui portent le voile ne pourront pourront pas le porter dans le cadre de l'examen. Avoir les oreilles découvertes, par définition, c'est incompatible avec le voile. Est-ce que pour vous, là, ça va trop loin ou bah, les profs, ils doivent lutter comme ils peuvent contre la triche, Lorenzo ?
C'est très important. Et qu'en tant que père de famille, et d'ailleurs, je voudrais quand même dire que j'en ai discuté dès que je l'ai appris avec ma fille, Chiara, et qui a tout de suite dit, attends, on est université libre de Bruxelles. Donc, il y a de la liberté, et donc, ça ne doit pas tout d'un coup changer pour cette raison-là. Mais donc, en tant que père, et par rapport à l'enseignement, je respecte totalement la liberté de culte, tant qu'elle n'empiète pas sur les règles communes. Mais ici, très franchement, on touche à quelque chose de disproportionné. Demander à ce que les poignets, les oreilles, soit visible pendant un examen, ça peut paraître anodin, mais ça met clairement certaines étudiantes dans une situation impossible, si ce n'est pas humiliant pour certaines personnes, et les forcer à choisir entre leur foi et leurs études qu'on va lutter contre la triche, il y a quelque chose qui cloche. D'ailleurs...
Mais je me mets à la place du professeur.
Il y a des universités qui utilisent des méthodes efficaces sans toucher à la dignité des étudiants. Vidéosurveillance, placement aléatoire, vérification ciblée, des brouilleurs d'ondes pour éviter les montres connectées, etc.
Et même des fouilles, il y a même des fouilles, même des fouilles.
Mais si on commence à dire qu'une université est un lieu de liberté, mais qu'on bloque déjà sur un voile, c'est un drôle de message qu'on envoie à la notion de liberté.
Lorenzo, je me fais l'avocat du diable, l'espace d'un instant, je me mets à la place de ce professeur confronté régulièrement au calvaire des montres connectées, des écouteurs, et on sait que on peut avoir un complice, un parent, un proche à l'extérieur de la salle d'examen qui vous donne les réponses, qui arrive directement dans votre oreillette. Comment est-ce qu'il fait aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène-là s'il n'arrive pas à demander aux étudiantes et aux étudiants d'avoir leurs poignets et leurs oreilles découvertes?
Ça fait partie du métier et des compétences d'un professeur, il doit lutter contre la triche, c'est son rôle. Et j'ai aucune indulgence, moi, pour ceux qui trichent. Je le regrette peut-être pour ceux qui l'ont fait. Mm-hmm. Mais c'est injuste pour tous ceux qui travaillent dur.
Mais donc, pour vous, la liberté et la liberté de la foi, la liberté du culte, passe quelque part avant les quelques cas de triche qu'on risque d'avoir. Si on doit faire, puisque vous étiez dans la question des proportions, vous dites cette décision n'est pas proportionnelle.
Si on peut démontrer qu'il y a un volume énorme de tricherie en dessous des voiles, mais s'il n'y a rien.
C'est simplement une supposition, c'est un postulat.
C'est une supposition, donc, et il y a d'autres moyens de le faire de toucher à cette liberté de culte qu'on peut avoir.
Je retiens le mot fondamental que vous avez prononcé, en tout cas pour vous, disproportionné. Dany, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ou vous vous mettez ce soir du côté des profs, désemparés face aux cas de triche qui se multiplient, la technologie aidant, cette triche est évidemment de plus en plus ingénieuse.
Ben, je comprends que pour les professeurs ce soir, une question délicate, mais la façon dont on a envisagé de faire ici des contrôles beaucoup plus marqués pour celles qui portent effectivement le voile, je peux pas l'admettre. Mm-hmm. Je peux pas l'admettre parce que c'est véritablement une discrimination. Alors, qu'il y ait des tricheries, qu'il y ait des montres qui sont suspectes, mm-hmm. qu'il y ait effectivement des copions cachés derrière des montres
et autres
subtilités de ce genre, eh bien, il y a moyen de contrôler cela aussi. Et je crois qu'il faut alors faire des contrôles plus rigoureux.
Vous parliez de la fouille à l'entrée ?
Quitte à fouiller que des dames fouillent, effectivement.
Toujours dans le respect de la personne.
Bien sûr, tout doit être fait dans le respect, mais je considère que ce n'est pas faire preuve de respect à l'égard de celles qui portent le voile que de considérer que elles seraient des sujets particulièrement inquiétants pour la tricherie par rapport à tous les autres sont tout autant.
Oh, mais Dany, on va vous dire que la règle est universelle et que finalement tout le monde va devoir avoir les oreilles et les poignets découverts et que donc il n'y a pas une population en particulier qui est ciblée puisque la règle s'applique à toutes et à tous.
Mais qu'on fasse déjà dans ces locaux, des contrôles qui soient importants. D'ailleurs, tout le monde sait que depuis des années, les serviettes ou autres cartables doivent rester à l'entrée du local, alors que de notre temps, chacun avait sa serviette à côté de lui. Et ça, c'est un des moyens pour effectivement exercer un contrôle. Ça n'a pas été évident non plus parce qu'on a constaté qu'il y avait énormément de vols à l'égard de ces serviettes ou autres cartables qui étaient à l'entrée. Mais donc, si on fait quelque chose, c'est contrôler, contrôler de manière efficace, que des femmes soient habilitées à faire des contrôles, parce qu'il faut évidemment que tout cela se fasse dans un parfait respect des droits de chacun. Mais il n'y a pas de solution idéale, mais celle qu'on a choisie me paraît inadmissible. Et d'ailleurs, j'ai entendu que certains professeurs qui avaient commencé la formule ont dû y renoncer.
En janvier,
parfois,
effectivement.
Parfois, après moins d'une demi-heure déjà.
En janvier, il y avait
demandé,
un test.
Il faut quand même demander d'exposer une partie de son corps qui, il ou elle, choisit de couvrir pour des raisons religieuses. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas anodin et c'est humiliant.
Et c'est, alors, c'est d'autant moins anodin.
Rien à voir avec la matière d'examen.
Imaginez ces jeunes étudiantes. Pour elles, elles ont toujours vécu voilées. Ça fait partie de leur vie. Et là, en plein examen, avec déjà le stress qui existe dans le cadre de n'importe quel examen, on les met dans une situation qui vient bouleverser leur foi, leur façon de vivre. Alors,
on les soupçonne.
C'est suffisant pour déjà rater son examen.
Si on m'avait dit que Lorenzo Stefani serait encore plus prolixe sur les questions de triche aux examens, sur les questions des chantiers routiers.
On a toujours été libre choix de transport et aussi dans le transport de l'esprit et de la religion.
Ah ben, vous êtes du côté de la liberté, vous nous l'avez prouvé une nouvelle.